Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Niagno et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode avec Marie Cheval, qui est actuellement PDG de Carmila, qui est un groupe autour du monde des centres commerciaux, qui est un groupe possédé par Carrefour. Une personnalité que j'ai trouvée vraiment hyper intéressante et je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce que les derniers moments étaient vraiment particulièrement impactants, je trouve. Alors, qui est Marie Cheval? Eh bien, c'est vraiment une personnalité du monde corporate. Elle a fait d'abord Sciences Po, elle a fait l'ENA. Ensuite, elle est rentrée à la Banque Postale et a finalement eu une carrière assez fulgurante dans le secteur des grandes entreprises. Le monde de la Banque Postale, comme je disais, chez Carrefour, également chez Boursorama, donc une plus petite boîte quand même, et aujourd'hui chez Carmila. Pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir Marie sur le podcast? Parce que justement, elle va contre les idées reçues de ces grands corporates qui ne disent jamais vraiment les choses, qui sont un peu pipeaux. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle aime prendre des décisions, elle aime être sur le terrain, dans l'action. Vous vous imaginez que j'adore ça, et du coup j'étais particulièrement intéressée de discuter de sujets de leadership, de management, de recrutement, de se dire les choses avec elle. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à lui dire sur LinkedIn où elle est présente. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir, comme à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie Cheval. Bonjour Marie.
Bonjour Pauline.
Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation.
Je suis ravie d'être là.
Et ben moi aussi, je suis ravie que vous soyez là parce que je peux vous dire que j'ai devant moi beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai beaucoup de pages écrites. Je voulais commencer par le début parce que je pense que c'est important pour comprendre qui vous êtes et donc revenir sur votre enfance. Je crois savoir que vous êtes fille et petite fille de vigneronne. Est-ce que vous pourriez m'expliquer où est-ce que vous avez grandi? Comment était votre famille? Et puis comment vous étiez vous, la petite Marie, quoi? À quoi elle ressemblait? Était plutôt, à faire les 400 coups, plutôt discrète? Enfin, comment est-ce que c'était?
Alors effectivement, je suis champenoise et j'ai grandi à Haï, qui est le premier grand cru de la Champagne, il n'y a rien de mieux. Okay. Et je suis issue d'une lignée de viticulteurs, puisqu'on fait du champagne dans ma famille depuis 13 générations. Donc mes parents étaient exploitants, récoltants, ça veut dire qu'ils avaient des vignes, ils faisaient du champagne et ils le vendaient aux clients.
Okay.
Et donc j'ai vraiment baigné dans cet univers où il y avait à la fois le travail de la vigne, le travail de la cave, l'accueil des clients, avec mon frère et ma sœur. Et donc, au début, l'accueil des clients, il se faisait un peu sur la table du salon. Et puis ensuite, mes parents, voilà, ont investi. Et donc, on a déménagé et c'est devenu un petit peu plus professionnel. Donc, j'ai la chance d'être née dans une région incroyable. On a fait un peu les 400 coups en se baladant dans les vignes, voilà, avec des copains. Moi, j'ai eu une enfance un peu de campagne. Et j'étais une petite fille plutôt sage. Voilà, j'ai toujours été assez bonne élève. Donc ensuite, j'ai fait toute ma scolarité à Épernay et puis je suis montée à Paris, comme on dit, après le bac pour faire Sciences Po.
Et alors justement, je voulais vous poser la question parce que souvent, enfin, quand on est dans des familles comme ça qui se transmettent un savoir-faire de génération en génération, bah, on y reste. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas voulu rester dans le secteur de la vigne?
Alors, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que moi j'ai suivi des études et puis ensuite j'ai progressé et puis j'ai eu des opportunités différentes de celles de la Champagne. Mon frère a repris l'exploitation viticole et ça c'est très bien. Et moi j'ai quand même une grande chance, c'est d'avoir su un peu réconcilier mes deux passions puisqu'il y a une dizaine d'années, je suis rentrée au conseil d'administration de Laurent Perrier.
Ah.
Et ça, c'était formidable. C'est vraiment une chasseuse de tête, j'allais dire, qui a fait très bien son travail parce qu'elle cherchait une administratrice et j'avais toutes les compétences pour ça. Et en plus, moi, j'étais champenoise et c'est vrai que je connais tout de la Champagne. Je sais comment on fait le tirage,
oui, oui.
Je sais pratiquement tailler une vigne. Je baigne vraiment là-dedans depuis que je suis toute petite. Et donc, c'est pour moi un vrai plaisir d'être au conseil d'administration de Laurent Perrier parce que je peux réunir un peu à la fois ma ce que je peux apporter en tant que gouvernance, au comité d'audit. Et puis, c'est vrai ma passion de la champagne.
Vous disiez que vous aviez été bonne élève et que vous aviez suivi finalement les études qui vous avaient amené à monter à Paris. Est-ce que quand vous étiez petite, vous aviez un rêve d'une profession? Est-ce que, comme souvent quand on est enfant, bah voilà, vous dites « moi, plus tard, j'aimerais être ». Qu'est-ce que c'était?
Alors, j'avais plutôt envie d'être journaliste.
D'accord.
Voilà. Peut-être qu'un jour je le serai, que je ferai des podcasts.
Bah peut-être, vous êtes en train de commencer.
Et c'est vrai que moi, je me suis vraiment réalisée à Sciences Po, qui est vraiment, c'est vraiment des années exceptionnelles. D'ailleurs, des années de rencontres. Moi, j'en ai gardé mes meilleurs amis. Et puis, c'est vraiment des études où on touche à tout. Et je crois que cette curiosité-là, elle ne m'a jamais quittée.
Je comprends. Une autre question que j'avais pour vous par rapport à l'enfance, c'est une question qui m'intéresse toujours, c'est les valeurs que vos parents vous ont transmises. Parce que je peux imaginer quand on est dans une famille comme ça, à la campagne de viticulteurs, il y a un certain nombre de choses qui sont transmises de manière peut-être même tacite. Et quelles sont finalement les valeurs qui vous ont le plus touché, qui vous portent encore aujourd'hui, que vos parents vous ont transmises?
Alors, je crois que c'est d'abord des valeurs d'ouverture parce que on voyait toujours beaucoup de monde. À la fois, il y avait des ouvriers, il y avait les clients, il y avait toute la profession champenoise. Et donc, moi, j'ai toujours été habituée à côtoyer des gens de tout niveau, de toute origine. Et ça m'a beaucoup apporté. Encore aujourd'hui, je suis à l'aise avec, je crois, un petit peu tout le monde. Ensuite, il y a un rapport quand on grandit comme ça dans un milieu agricole, je pense qu'il y a un rapport au temps qui passe et au temps qui fait qui est différent et au travail aussi. Enfin, moi, je me rappelle un mois d'août où il y a eu un orage de grêle et on savait que bah voilà, la récolte était par terre. Je me rappelle ma mère est née le 5 avril. Et le 5 avril, en général, il gèle en Champagne. Et donc, il y a toujours ce moment où, là là, est-ce qu'il va geler la nuit ou pas? Et ça, je crois que ça inspire une grande humilité aussi, et un goût quand même pour le travail. Et puis ensuite, moi, mes parents, ils m'ont appris là ce que c'est qu'une famille unie. Et ça, c'est quand même aussi très, très important. Et pour moi, les valeurs familiales sont importantes.
Pour revenir sur le premier point, je le trouve très intéressant parce que vous avez fait de grandes études, donc Sciences Po, l'ENA, et ensuite vous avez travaillé dans des très grandes entreprises. Et pour autant, la personne qui nous a présenté, donc on va la nommer Isolis Cost, que j'ai aussi eu le plaisir d'interviewer sur le podcast, m'a dit, tu vas voir, Marie, elle est pas du tout un animal corporate comme on peut l'imaginer, et au contraire, c'est une personne éminemment humaine. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez précédemment, quand vous disiez que vos parents vous ont appris aussi, grâce à tout ce brassage culturel, on va dire, à interagir avec des personnes de plein de cultures différentes ou de plein d'horizons différents. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent, quand on est dans un certain milieu, on y reste. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez qui est utile pour vous aujourd'hui dans votre carrière, le fait d'être très adaptable avec différents types de personnes qui viennent de cultures et d'horizons différents?
Oui, je crois que c'est une de mes grandes qualités, si j'ose dire, et qui m'a servi à de nombreuses reprises. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi. On a tendance à mettre un petit peu les gens dans des cases. On se dit, oh là là, elle est énarque, elle doit être chiante et très intello, quoi. Et moi, je me rappelle je suis arrivée à la Poste et j'ai dirigé des grosses équipes très, très vite, très jeunes. Et parfois, c'était assez rugueux. Mais je sais répondre et je sais répondre parce que moi, j'ai passé des vendanges avec des vendangeurs. Voilà. Et ça vient effectivement de mon enfance. Et je pense que c'est une grande qualité de savoir être à l'aise avec tout le monde. Aussi bien à la reine d'Angleterre. Alors, j'ai jamais eu la chance de la croiser que quelqu'un qui met en rayon dans les hypermarchés Carrefour que j'ai dirigé. Et je pense que c'est une grande qualité. Et j'ai aussi appris une autre chose, mais ça, d'un de mes premiers patrons, c'est d'essayer d'avoir toujours le même discours. Alors, le même discours, il faut parfois le simplifier quelque part, mais d'être vraiment très cohérente et de tenir toujours le même discours, quelle que soit la nature de l'interlocuteur. Et ça, je pense que c'est très important également.
Vous auriez un exemple où ça peut être justement important d'avoir le même discours?
J'aurais un exemple, c'est quand on a... Moi, j'ai rejoint ensuite La Poste pour créer la Banque Postale. Et la création de la Banque Postale, il y a eu un énorme travail de conviction. Alors, de conviction des parties prenantes, de l'État, de La Poste. Et puis ensuite, d'explication en interne à des postiers de ce que c'était que la Banque Postale. Et donc, on avait travaillé tout un discours. On avait fait un tour de France pour aller présenter dans chaque département ce que c'était la Banque Postale. Et au début, on avait un discours assez, assez technique. Et en fait, on a gardé le même discours, mais en simplifiant les mots. Et on s'est aperçu qu'au début, on parlait d'établissement de crédit postal, les gens ne comprenaient pas. Et on a parlé de banque postale, c'était la même chose, mais en plus simple. Mmh. Et ensuite, on commençait par dire, eh ben, pour vous, rien ne va changer. Mais voilà, on vous explique la banque postale. Et moi, j'ai beaucoup appris de ça, d'avoir effectivement de commencer par vraiment les choses élémentaires pour les gens, quoi. Et voilà, de simplifier le discours. Et on avait, quand on a fait le grand plan de transformation des hypermarchés, on avait trois mots et c'était toujours les mêmes et tout le monde les comprenait. Mmh. Je pense que ça, c'est très important. Il y a d'avoir une stratégie, c'est toujours très élaboré. Et ensuite, il faut arriver à la ramasser en quelques mots qui fonctionnent.
Simplifier toujours. Cette question de la diversité, je la trouve, je reviens encore en arrière sur ce qu'on disait précédemment, intéressante parce que je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui s'apprend de réussir finalement à collaborer avec des personnes de différents univers? Ben voilà, le postier, l'ouvrier, à l'inverse, le CEO d'une très grosse boîte, de la banque postale ou je ne sais quoi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, grâce à l'enfance notamment, et donc il y a un vrai sujet d'éducation qui sont naturellement douées pour ça. Enfin, c'est pas naturel, du coup, c'est culturel. Mais est-ce que vous pensez quand même que ça s'apprend?
Moi, je pense que ça vient beaucoup de l'éducation, c'est sûr. Après, sans doute, ça peut s'apprendre. Mais moi, je crois qu'on est beaucoup forgé par son éducation, par son enfance. Alors après, certaines personnes se évoluent en contraste et donc peuvent se dire « bon, j'ai pas été élevé comme ça, donc il faut que je travaille sur ce sujet-là ». Mais quand on l'a appris jeune, c'est quand même beaucoup plus facile.
C'est sûr, c'est naturel. Alors, vous avez évoqué la banque postale et ça tombe très bien parce que je voulais justement en parler. J'ai regardé votre carrière, je ne sais pas si j'ai envie de dire fulgurante parce qu'il y a quand même un certain nombre d'années, donc vous avez bossé.
Ça commence à devenir vieille.
Non, mais vous y avez travaillé quand même longtemps. Et quand même, cette carrière m'a paru en tout point exceptionnelle. Donc, si je cite quelques éléments que j'ai vus, vous me corrigerez si je me trompe. Directrice marketing à 32 ans, à peu près. À 35 ans, vous devenez directrice des opérations donc de la banque postale et vous aviez à l'époque sous votre responsabilité, du coup, à peu près 15 000 personnes. Ce qui est quand même une sacrée pression, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est pertinent comme question, mais quelles ont été vos émotions quand vous êtes quand même encore une jeune femme malgré tout et en fait vous arrivez à des postes avec de telles responsabilités que vous savez que vous avez sous vous, même si ce n'est pas forcément en direct, 15 000 personnes à gérer. C'est quoi les émotions quand on prend un poste comme celui-ci? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
D'abord, le paradoxe, c'est que j'ai toujours trouvé que c'était plus facile de diriger des grandes équipes que de diriger des petites équipes. Je m'explique. Quand vous dirigez une grande direction, vous avez autour de vous une équipe. Et donc là, la première émotion, c'est de se dire, il faut que je constitue une bonne équipe. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu à cœur, le travail en équipe est important pour moi. Il n'y a rien de plus agréable que de constituer une équipe et de se dire à un moment, ça y est, l'équipe, elle fonctionne. Voilà. Mais la première émotion, c'est effectivement, oulala, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire le premier jour?
Ouais. Voilà.
Et donc le premier jour, faut se jeter à l'eau et puis faut rencontrer les gens. Et donc moi j'ai toujours eu le réflexe d'aller sur le terrain tout de suite pour un peu me rendre compte. Et puis ensuite on attend de vous que vous décidiez des choses. Et moi c'est toujours ce qui m'a frappé, c'est que y a des gens qui réfléchissent pendant des heures, des jours, des semaines et qui font attendre. Et moi je pense que quand vous êtes dirigeant, vous ne pouvez pas faire attendre. Et donc, il faut décider rapidement. Alors, pas décider la stratégie en 3 minutes, mais je crois qu'il y a un certain nombre de décisions qu'il faut prendre et dire tout de suite aux gens, ben voilà, moi, comment j'ai envie de travailler, comment ça va se passer, et expliquer ça. Voilà. Et ensuite, construire votre équipe. Et construire l'équipe, ça, c'est le plus important.
Alors, énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Déjà, au niveau de la constitution d'équipe. Tellement difficile, évidemment. Est-ce que vous auriez des conseils, de l'expérience, en fait, à nous partager, tout simplement, pour nous dire comment on constitue une bonne équipe?
Oui. Alors, moi, j'ai évolué là-dessus. Au début, j'essaie toujours de faire un mix entre garder des gens de l'équipe. C'est très important. Moi, quand je suis arrivée directrice d'opération à la Banque Postale, j'étais jeune. Enfin, je me suis appuyée sur quelques personnes dès que j'avais repéré avant, que j'ai nommé, mais c'était indispensable. Et donc, de trouver des gens en place. Et ensuite, il faut renouveler et faire rentrer un petit peu de sang neuf. Et il faut créer un peu cette alchimie entre, j'allais dire, les anciens et les nouveaux. Et moi, j'ai toujours prêté beaucoup attention, et je pense que c'était parce que j'étais jeune, aux âges. Voilà. Alors, diversité, on parle beaucoup hommes-femmes. Je pense que la diversité d'âge et d'origine, d'ailleurs, est très importante. Ouais. Et je me rappelle, chez Boursorama, quand je suis arrivée chez Boursorama, c'était un comex formidable, mais on avait à peu près tous le même âge. Et on s'était dit, avec mon adjoint Benjamin Grisoni, à un moment, il y a un problème, on a tous le même âge, on va tous penser pareil.
Et donc, à peu près quel âge? Je suis désolée de vous interrompre.
C'était en 2013, donc on avait à peu près 40 ans, un peu moins de 40 ans. Et moi, j'ai été recrutée à un directeur informatique, et il s'en rappelle, il se trouve qu'il est parti en retraite récemment, on a fait son pot de départ, et je lui ai fait dire, Bertrand, je cherche un bon directeur informatique, et je lui ai dit pratiquement vieux. Et alors là, il m'a regardé, non, parce que j'avais besoin d'expérience et quelque part de sérénité. Ah oui. Voilà. Et donc, je crois que la diversité d'âge est très importante, au-delà de la diversité de sexe ou d'expérience. Mmh. Voilà. Mais c'est très... constituer une équipe, pour moi, c'est le plus difficile, et c'est aussi le plus satisfaisant quand vous avez l'impression que l'équipe, à un moment, elle tourne aussi si vous n'êtes pas là.
C'est ça, voilà. J'allais vous demander, c'est quoi une équipe qui marche?
Une équipe qui marche, d'abord, c'est une équipe où je pense où on a plaisir de travailler et où tout le monde a quand même un peu plaisir de travailler, même s'il y a toujours quelques inimitiés. C'est pas non plus un monde de bisounours. C'est une équipe où on ose se dire les choses et où on n'est pas d'accord tout le temps, mais on ose se le dire. Ouais. Voilà. Et c'est une équipe où on a l'impression d'avancer ensemble, où on a l'impression que chacun progresse. Voilà. Et quand on fait, après, il y a toujours un moment de l'année où on fait un bilan, quand on se dit voilà tout ce qu'on a fait, et puis après, quand vous avez des entretiens plus personnels avec les gens, on vous dit, ben moi, voilà, j'ai appris, voilà ce sur quoi j'ai travaillé, c'est quand même quelque chose de très satisfaisant en tant que manager ou dirigeant. Et moi, je pense que faire progresser les gens, et puis avoir l'impression aussi de progresser soi-même, c'est quelque chose de très important.
On voit ça. Je voulais parler de leadership. Je m'étais noté que c'était l'un des sujets que je voulais aborder avec vous. Et donc là, vous l'avez déjà pas mal abordé. Quelque chose que j'ai lu sur vous, et vous l'avez un peu dit d'une certaine manière, c'est que vous n'êtes pas hyper fan de mettre les gens dans des cases, et notamment au niveau du management. J'ai lu, mais vous me direz si c'est vrai, que vous étiez un peu allergique à l'expression « management au féminin ». Pourtant, à l'heure actuelle, on sait que c'est quelque chose qui est très à la mode. Personnellement, je suis plutôt pas fan de cette expression, effectivement, aussi. Donc, c'est pour ça que je vous demande, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fan de management au féminin?
D'abord, je pense que je suis pas fan parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Et c'est vrai que ça m'a, jusqu'à assez récemment, ça m'a toujours un peu énervée quand on me disait, mais en tant que femme, alors est-ce que vous faites les choses différemment? Ou moi, je me rappelle quand j'avais 35 ans, je faisais des interviews et les journalistes, elles étaient uniquement intéressées par comment je gérais la vie professionnelle et la vie personnelle plutôt que par mon métier. Et moi, j'avais envie de parler de mon métier. J'ai évolué là-dessus parce que je pense qu'en tant que femme, on a aussi un rôle de, je sais pas si c'est rôle modèle, c'est un peu prétentieux, mais d'expliquer aussi comment on fonctionne. Mais c'est vrai que management au féminin, moi, je sais pas si je manage comme une femme. Je manage comme je suis et je suis une femme. Donc, forcément, j'ai un peu un management au féminin. Mais je crois qu'on manage tous comme on est. Moi, j'ai 47 ans. Voilà. Je suis champenoise. J'ai des enfants. J'aime la montagne et je manage avec tout ça. Et puis, avec tout mon background, avec mes expériences, avec mes défauts aussi. Et je sais pas si c'est féminin ou autre chose. C'est pour ça que je suis un peu allergique à la formule management au féminin. Mais je me retrouve absolument aussi dans des caractéristiques de femmes. Moi, je pense que fondamentalement, il y a des traits psychologiques très différents entre les femmes et les hommes. Que quand on est une femme, le syndrome de l'imposteur, moi, c'est quelque chose que je vois ce que ça veut dire, parce que je pense que je l'ai eu par certains moments. Le côté très très efficace, le rapport à la vérité qui est sans doute un peu différent aussi. Je pense que c'est des choses qui sont réelles. Mais il faut pas trop le simplifier en le mettant dans une case.
Alors, encore plein de questions. Le rapport à la vérité est différent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais je pense que c'était Francis Maillard qui disait ça, l'ancien patron de la Caisse des dépôts, qui est malheureusement décédé. Il avait fait une intervention qui m'avait frappé. Il m'avait dit « Les femmes ont un rapport à la vérité différent. » Et je pense que c'est vrai, c'est ce côté un peu plus efficace, right to the point. Et je pense que quand on est dans une assemblée de femmes, on se dit les choses plus naturellement, peut-être moins de fioritures.
Plus direct.
Alors, je dis pas qu'il y a pas des femmes qui racontent n'importe quoi, qui mentent, ni des hommes qui disent la vérité. C'est pas ça. Mais je pense que c'est une espèce de, le côté plus direct. Voilà. Et je crois que c'est lié, quelque part aussi à quand même la double journée, tout ce travail qu'il y a qui fait qu'on doit être efficace. Et moi, j'ai toujours trouvé chez les femmes, un rapport à l'efficacité qui est quand même assez exceptionnel.
C'est drôle, je ne m'étais jamais formulé, mais je suis maintenant assez d'accord avec vous. Pour revenir à ce que vous disiez aussi précédemment sur les questions que vous étiez posées et les premières étapes de l'arrivée, par exemple, à la Banque Postale ou chez Boursorama, donc on constitue l'équipe et puis on prend des décisions. Et là aussi, c'est un peu contre-intuitif parce qu'effectivement, quand on se dit qu'on va arriver dans un terrain comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'on va prendre comme première décision ? On ne connaît pas forcément. Comment est-ce que vous arrivez à aller dans cet arbitrage de se dire, il faut quand même que je prenne des décisions rapides alors même que je viens d'arriver.
Mais on peut prendre des décisions qui ne sont pas des grandes décisions. Vous pouvez prendre des décisions, par exemple, de dire, maintenant, je vais faire le COMEX, ça sera toutes les semaines, ça sera à telle heure, et voilà les types de sujets qu'on va traiter. On ne prend pas comme décision tout de suite de se dire, tiens, je vais racheter un pays ou on va se lancer là. Mais je crois qu'il faut être toujours dans un mouvement où il se passe quelque chose, parce que les équipes attendent des choses de vous. On peut prendre comme décision de dire, on va travailler sur un plan stratégique, et puis à telle date, on va en parler. Je ne dis pas qu'il faut tout décider tout de suite ou prendre des décisions structurantes dans la journée.
J'ai très bien compris. Autre chose que j'ai lu sur vous, c'est que justement quand vous parliez du fait que management au féminin, ça ne voulait pas dire grand-chose, vous disiez qu'à l'inverse, c'est l'expérience en fait finalement qui crée le leadership et qui fait que on devient meilleur en management, en leadership. Est-ce que vous pourriez réfléchir sur votre carrière et me dire, issu de l'expérience, quels sont les 1, 2, 3 conseils ou les choses que vous avez remarquées qui vous ont fait progresser, que ce soit en management et en leadership ? C'est pas facile.
C'est pas facile. Je crois qu'il faut prendre les attributs du chef. Ça peut paraître idiot, mais on a toujours dit, vous prenez un rôle de direction, il faut par exemple prendre le bureau du directeur. Ça peut paraître évident, mais il y a des gens qui prennent un rôle de direction qui disent, je m'installerai plus tard, etc. Il faut vraiment un moment, et prendre un certain nombre de décisions qui vous pose et déjà qui vous, parce que ça va vous rassurer. Ensuite, je crois qu'il faut aller sur le terrain. C'est essentiel. Il faut aller sur le terrain. Quand vous dirigez des équipes, il faut tout de suite aller se rendre compte de ce que c'est le terrain. Et là, moi, je l'ai appris à la Poste. Je l'ai appris encore plus chez Carrefour. Vraiment, se rendre compte de ce que c'est, ça ne veut pas dire prendre le rôle des gens sur le terrain, mais ça veut dire s'asseoir à côté, comprendre, expliquer, parce que ça vous donne une très grande légitimité après. Et ensuite, troisième chose qu'on ne fait jamais assez, c'est rapidement aller voir ses pairs ou ses concurrents. Et je crois que ça, c'est très important, parce qu'on a toujours tendance à être absorbé par l'interne, alors qu'il faut se garder du temps pour l'externe. Et ça, je l'ai sans doute pas assez fait dans mes premières fonctions.
C'est hyper intéressant. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus ? J'avoue que moi-même, je suis très focalisée sur l'interne, à part avec le podcast où, justement, c'est un peu ma source d'ouverture d'esprit sur le monde extérieur. Mais concrètement, est-ce que vous auriez un exemple que vous pourriez partager de, en fait, comment est-ce qu'on s'ouvre vers l'externe ? C'est quoi ? C'est des déjeuners ? C'est des rencontres ?
Oui, concrètement, et je crois que je l'ai, par exemple, mieux fait quand mon dernier job chez Carmila, j'ai rencontré tous mes homologues. C'est des concurrents, mais tous mes homologues. Alors, c'était un peu parfois baroque parce qu'en plus, c'était un peu pendant le confinement. Mais on a fait des visios juste pour les connaître. Et après, ça aide. Alors, pas pour s'échanger des secrets.
J'allais vous dire, qu'est-ce que vous vous dites ?
Bonjour, on se rencontre. Il y en a un, typiquement, il est champenois comme moi. Et puis, on se raconte un peu des choses. Je pense que c'est important. Et puis, aller chercher, ne pas hésiter à aller chercher le spécialiste, le journaliste spécialiste du secteur. Discuter un peu, essayer d'avoir de l'information. Je pense que c'est important. Ce qui n'empêche pas de faire après quelque chose de très différent.
Bien sûr. L'idée, c'est en fait de connaître un peu les concurrents, mais aussi peut-être d'avoir leur regard sur nous-mêmes, c'est ça ?
Bien sûr, et on apprend toujours des choses. Moi, je crois, quand vous avez une journée, on a tous des journées très remplies, pleines de réunions, on a toujours l'impression qu'elles sont toutes les plus importantes que les autres. Et moi, j'essaye quand même souvent de caler des réunions. Typiquement, il y a toujours des consultants qui veulent vous voir. Et même quand on n'a rien de précis à leur demander, moi, je me dis toujours, j'ai pas perdu mon temps parce qu'il y a souvent au moins une idée. Et donc, il faut oser, je crois, ne pas être dans le 100% efficacité où on voit que des réunions de son équipe, que des gens de son équipe dans la journée pour décider de dossiers. Il faut voir un peu des gens de l'extérieur parce qu'on n'est jamais déçu, on en apprend toujours quelque chose.
Et dans le, alors là, c'est un peu technique comme question, mais vous diriez qu'en pourcentage de votre agenda, ce genre de réunion correspond à peu près à quel pourcentage de votre temps ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est 15%. Il faudrait que ça soit plus. Il faudrait que ça soit plus. Mais oui, parce que sinon, vous ne vous renouvelez pas, en fait. Vous avez tendance à faire un peu toujours la même chose. Alors, ça peut être très efficace. Et puis, on a déjà beaucoup de choses à faire. Mais je crois que c'est indispensable d'aller chercher des sources d'idées ailleurs. Alors, elles peuvent être aussi... Je parlais tout à l'heure que j'étais au bord de Laurent Perrier. Je suis aussi au bord d'M6. Ça m'apprend aussi ça me rend meilleur pour mes fonctions de chez Carmila. Voilà, et je pense que ça, c'est très important.
Peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre, mais est-ce que vous auriez un exemple, justement, d'une idée, d'une compétence, d'une réflexion que vous seriez faite suite à des échanges avec quelqu'un d'extérieur qui n'a rien à voir avec votre métier? Et en fait, ça a fait un pont. Et vous vous êtes dit, ah non, mais ça, en fait, voilà comment je vais l'adapter chez Carmila, chez Carrefour, enfin, peu importe.
Eh bien, par exemple, chez Carmila, on est en train de développer une activité nouvelle qui n'a rien à voir avec notre business actuel, qui sont les tours 5G. Voilà, des tours 5G pour avoir la 5G et qu'on va aller placer derrière les centres commerciaux. Et on a décidé d'en faire un vrai business, une vraie ligne métier. Et donc, quand je suis arrivé chez Carmila, il y avait cette idée-là. Et en fait, il se trouve que je connais quelqu'un qui travaille chez un opérateur. Et je l'ai croisé un peu par hasard. Et lui m'a convaincu, il me dit, mais en fait, ce truc-là, c'est l'avenir, quoi. Donc, vas-y à fond, voilà. Et alors, peut-être que si je ne l'avais pas croisé, on l'aurait été quand même. Mais ça m'a en tout cas, je me suis dit, bah ouais, finalement, on y va et on y va à fond, quoi. Voilà. Voilà un exemple.
Super. Comme quoi, les rencontres, même les plus farfelues, parfois, permettent d'avoir de belles idées. Alors, justement, je voulais parler un petit peu de Carmila, qui est votre poste actuel, où vous êtes arrivé quand même dans une période pas évidente, puisque ben on se prend le Covid collectivement, et quand on est à la tête PDG d'une boîte qui a vocation, en fait, à mettre en avant des centres commerciaux, j'imagine que les choses sont pas évidentes. On vous a certainement déjà posé la question, mais concrètement, quand vous avez vu le Covid arriver, quelles ont été les actions que vous avez menées rapidement en vous disant « Ok, ben là, maintenant, il y a une énorme crise complètement sans précédent. » Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à quelque chose aussi radical?
Alors, le Covid, moi, je l'ai vu arriver encore plus quand je dirigeais les hypermarchés, donc en mars 2020. Et là, on a vécu quelque chose d'absolument incroyable parce que là, Carrefour est présent aussi en Italie. Et l'Italie avait quelques jours d'avance sur la France. Et donc, on voyait ce qui se passait en Italie. On voyait les queues devant les magasins au moment où le confinement avait été décrété. Et moi, je me rappelle très bien le patron de l'Italie qui m'avait appelé. Il m'avait dit, mais Marie, achetez du plexiglas. Parce qu'ensuite, le plexiglas, on le mettait pour protéger les hôtesses de caisse. Et ça m'avait paru complètement dingue. Et donc, on a, en quelques jours, complètement pris des décisions qu'on n'aurait jamais imaginé prendre, mis en place une espèce un pilotage de crise, mais voire de guerre à un moment. Et ça a été vraiment quelque chose de très très marquant. Et moi, ça m'a créé je pense que il y a des gens avec qui j'ai travaillé à ce moment-là. On est liés à vie par ça. De prendre des décisions, mettre les plexiglas. Après, on a eu toute la gestion des cas de gens malades. Et ensuite, il y a eu toute cette période complètement folle où on a fait l'équivalent de deux Noëls en deux jours, mais en vendant des pâtes et du papier toilette et pas du champagne et du foie gras, quoi. Et de recharger des magasins et les gens qui étaient stressés de plus pouvoir trouver. Et donc, ça a été quelque chose de complètement incroyable, car c'était très tendu jusqu'à temps où on a eu les masques. Parce qu'on a eu quand même 3 semaines, on n'avait pas les masques, les gens allaient travailler sans masque. Et c'était absolument dingue. Et moi, dans cette crise-là, ce que j'en retiens, c'est il y a eu des gens qui ont incroyablement élevé leur niveau de jeu et qui se sont réveillés dans la crise. Il y a eu des gens, et c'était les plus compliqués à gérer, qui n'ont pas changé d'attitude, et ça, c'était compliqué. Et il y a eu des gens qui ont perdu pied parce qu'ils avaient peur. Et moi, dans mon équipe, il y a eu une personne un jour, je lui ai dit, mais écoute, arrête de travailler, là, tu ne peux plus. Et on a mis en place ça, et moi, j'en retiens aussi un élément très important, de se dire, il faut centraliser certaines décisions très importantes et ensuite déléguer. Parce que finalement, celui qui sait, c'est le directeur de magasin. Et là, on a mis en place vraiment, on a complètement changé notre façon d'organiser les choses à cette période-là. Et puis après, ben la vie a repris. Quelque part, on s'est même habitué. C'est incroyable. D'ailleurs, on a oublié le couvre-feu, etc. Et chez Carmilla, quand je suis arrivée, ben les centres ont été fermés. Voilà. Et là, la grande difficulté, c'est l'accompagnement des commerçants. Voilà. Parce que nos clients chez Carmilla, c'est les commerçants. L'accompagnement des commerçants, la gestion après, évidemment, des passes sanitaires. Et ça a été vraiment une situation assez de crise pendant... on sort de deux années de gestion très intermittente. Ça a beaucoup rapproché les équipes. Je pense qu'on a appris à travailler de façon très différente, de façon beaucoup plus directe. On a appris à faire des visios tout le temps. Voilà, et on en sort finalement... je pense plus fort sur notre capacité de résilience. Et nous, on a beaucoup profité de cette crise pour travailler sur notre stratégie et voir comment on pouvait pivoter. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça. Et d'ailleurs, ça explique aujourd'hui le dynamisme sur certains secteurs qui est lié à ça. Même si évidemment, la situation actuelle avec l'Ukraine rend les choses compliquées.
Sur la gestion de crise, j'imagine que vous avez appris énormément à ce moment-là, parce que si je me trompe pas, c'était les deux plus grandes crises que vous avez vécues en tant que professionnel. Quels sont certains éléments clés que vous avez appris, que vous essayez de vous appliquer, si c'était à refaire, en d'autres termes, alors j'espère évidemment que ça ne va pas arriver, mais imaginons qu'on ait une autre pandémie ou pire autre chose. En gros, quelles sont les choses que vous feriez différemment, vraiment sur la gestion de crise?
Je pense qu'il faut oser déléguer. Voilà, je pense qu'il faut oser déléguer pas tout, mais il faut s'appuyer sur les opérationnels qui savent. Voilà. Et typiquement chez les hypermarchés, c'est le directeur d'hypermarché. Donc il faut changer de mode de gouvernance. Et ensuite, il faut être en contact, j'allais dire permanent, avec beaucoup de personnes. Moi, j'ai passé ma vie au téléphone, mais y compris à appeler les gens pour savoir s'ils allaient bien. Parce que je crois que ces crises-là, et on voit, en fait, on est... je disais tout à l'heure, j'aime bien les gens. Je pense qu'on est alignés. On a notre vie professionnelle, on a notre vie personnelle. Bon, faut faire attention de pas trop mélanger, mais en même temps, on mélange quand même toujours un peu. Voilà, parce qu'on n'est qu'une seule personne. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que on manage comme on est. Et on voit que dans la crise, le côté personnel, ben parfois, peut vous empêcher d'être bon professionnellement. Et donc, c'est là où il faut être en contact et oser aussi poser des questions aux gens sur quelqu'un qui a ses parents qui sont en train de mourir du Covid. Forcément, enfin, vous êtes obligé d'en parler. Et je crois que la crise, justement, met en évidence ça. Et donc, de grande proximité et d'appeler les gens juste pour savoir s'ils allaient bien. Et les gens, quand ils ont sécurisé leur aspect personnel, après, ils sont efficaces professionnellement. Donc ça, c'est des choses qu'apprennent typiquement. Nous, on était allés chercher des conseils auprès de personnes de l'armée même. Voilà. Parce qu'à un moment, on s'était dit, il va falloir qu'on gère aussi la mort. Voilà. Et on est, en tant que professionnel, vous savez pas gérer ça. Voilà. Et donc, il nous avait dit, délégation, et puis, il faut que les gens, ils aient sécurisé leur aspect personnel pour être bons professionnels.
Oui, pour revenir à des fondamentaux.
Exactement. Ouais. Mais ça, de toute façon, le Covid nous a tous ramenés aux fondamentaux. Et d'ailleurs, je trouve d'ailleurs que collectivement, sociologiquement, on n'en a peut-être pas tiré toutes les conséquences. C'est le rapport à la maladie et à la mort. Voilà.
Clairement. Tout à l'heure, vous évoquiez votre rôle donc de PDG de Carmilla, et on a senti donc qu'il y avait un rôle de prospection, de développement. Il y a aussi un rôle de gestion. Et je trouve que cet équilibre, il n'est pas toujours facile à trouver. C'est pour ça que je vous posais la question sur le pourcentage de temps passé sur l'un et l'autre. Pour être concrète, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez décrire finalement quelles seraient vos missions en tant que PDG d'une entreprise comme Carmilla? En gros, qu'est-ce qui est attendu d'une personne comme vous en tant que dirigeante? Est-ce que c'est de faire en sorte que la gestion opérationnelle soit parfaitement optimisée, efficace, etc.? Est-ce que c'est en fait du développement? Finalement, c'est quoi ce rôle de PDG d'une grosse boîte, quoi, comme ça?
Donc, je crois que le rôle, il y a d'abord un rôle d'incarnation de la société. Carmilla, c'est une boîte cotée, et donc le PDG doit incarner la société en extérieur, à l'intérieur évidemment, et ça, c'est porter la stratégie, l'expliquer à toutes les parties prenantes, et puis la défendre. Voilà. Et ça, c'est un rôle qui doit représenter à peu près au moins la moitié de mon temps, je sens. Ensuite, il y a un rôle effectivement de faire en sorte que l'entreprise tourne, d'exploitation, rôle opérationnel. Moi, j'aime beaucoup ça, j'ai tendance à y passer du temps. Je pense que j'ai tendance à y passer trop de temps. Voilà. Et donc ça, normalement, quand vous avez... voilà, il faut y passer du temps, mais normalement, c'est quand vous avez une équipe qui tourne, et ça tourne. D'ailleurs, ça tourne très bien chez Carmilla. Donc ça, ça doit être, je sais pas, 30% de mon temps. Et puis ensuite, il y a le rôle, 20%, alors je c'est peut-être un peu moins, ça dépend des moments, de comment je trouve de nouvelles idées.
Prospective.
Voilà, prospective. Et donc, ça, mes prospectives, ça va de... Moi, j'ai toujours été épatée par les patrons qui font des liens entre les choses. Mmh. Moi, j'ai eu Patrick Werner, mon patron à la Banque Postale. Je me suis toujours fait la réflexion. Il disait les mêmes choses que moi, mais il faisait des liens. Voilà. Et donc, moi, je toujours gardais ça. Et donc, ça commence, la prospective, ça commence. Vous lisez un article le matin, puis vous vous dites, tiens, cette enseigne-là, elle va vachement bien. Et donc, voyons ce qu'on peut faire avec eux. Ça commence par là. Mmh. Et puis, c'est voir des gens, c'est avoir des idées, voilà. C'est ça. Et ça, je pense que c'est très important. Voilà. Moi, c'est comme ça que je définirais un peu mon rôle.
Donc, de la stratégie, un peu d'opérationnel, de la représentation.
Voilà.
Sur la partie opérationnelle, on est tous tentés, en général, de mettre un peu son nez dans les choses. Et vous avez l'air de dire que c'est votre cas particulièrement. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, à votre niveau, ça veut dire quoi, en fait, faire de l'opérationnel? Ça veut dire aller chercher les problèmes? Ça veut dire pointer du doigt quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas de la bonne manière? Ça veut dire, au contraire, insister sur ce qui va bien? C'est quoi, concrètement?
Alors, d'abord, on a toujours tendance à insister sur ce qui va pas bien plutôt que sur ce qui va bien. Donc, faut un peu se forcer aussi. Donc, l'opérationnel, chez Carmilla, par exemple, ça va être de regarder les fréquentations des centres commerciaux et le chiffre d'affaires des centres commerciaux. Et donc là, tous les mois, on analyse assez précise, et puis toutes les semaines d'ailleurs aussi. Et puis, typiquement chez Carrefour, j'avais le chiffre toutes les heures.
Mmh. Ah ouais.
Et donc là, il faut lutter contre la tendance à dire, oh là là, là, ça se casse la figure sur ce centre-là, qu'est-ce qui se passe? Faites-moi un plan d'action, etc. Mais il faut le faire un petit peu quand même. Donc, il faut trouver le bon dosage. Et donc là, effectivement, on se dit, bon là, ce centre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel plan d'action, etc. Ensuite, on a des projets. Typiquement, là, on a un gros projet à Montesson. On va étendre un centre commercial. Et donc là, on travaille sur le projet, sur le look and feel, quel commerce on y envisage, combien ça va coûter, tous les sujets de construction qui sont très importants parce qu'on est des infrastructures, donc on a des sujets y compris environnementaux très très lourds. Voilà, c'est de passer du temps sur les projets. Voilà, c'est ce type de sujet, l'opérationnel. Et donc, il faut effectivement bien doser pour ne pas être trop présent et faire attention aussi à ne pas être que sur ces sujets de prédilection. Moi, par exemple, j'adore le marketing. J'en ai fait beaucoup. Et donc, je sais que je fais attention à ce que ma directrice marketing soit pas sur son dos pour lui dire, ah, mais ça, là, tu dois faire comme ça, etc.
Voilà.
Donc, à l'inverse, la construction, bon, c'est moins ma tasse de thé. Et donc, il faut que j'y passe quand même un petit peu de temps pour comprendre. Voilà. Donc, c'est ça le type de sujet opérationnel que j'ai à traiter au quotidien.
Je voulais vous poser une question sur votre propre formation, mais je veux dire la formation de manager, de dirigeant, pas la formation forcément Sciences Po, ENA. En fait, comprendre comment est-ce que vous avez appris à être la dirigeante que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est passé par des mentors? Est-ce que c'est uniquement sur le terrain? Est-ce que vous avez même été coachée peut-être? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé?
Alors moi, j'ai beaucoup appris de mes mentors qui ont été souvent mes patrons. Et moi, j'ai eu des patrons qui m'ont vraiment appris des choses. Voilà. J'ai passé 10 ans aux côtés de Patrick Werner et je me rappelle qu'il m'a appris des choses. Il m'a passé beaucoup de temps à m'expliquer des choses. Il m'a appris des choses. Il m'a appris, typiquement, moi, je me rappelle avoir une discussion avec lui sur comment virer quelqu'un. Voilà. Comment, à un moment, vous faites rentrer quelqu'un dans votre bureau et vous savez que vous devez lui dire que, maintenant, il est peut-être temps de penser à une autre chose. Voilà. Donc c'est des choses, voilà. J'ai beaucoup appris de Jean-François Samarcelli à la Société Générale, grand banquier, et voilà. Donc moi, j'ai beaucoup appris de mes patrons et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont fait confiance, voilà. J'ai beaucoup appris aussi d'Alexandre Bompard. Moi, quand j'ai rejoint Alexandre Bompard, c'était pas forcément évident pour moi parce qu'on a à peu près le même âge, on s'est connus à l'ENA, et je m'étais dit, comment ça va se passer, quoi? Et j'ai pas été déçue parce qu'il va plus vite et plus loin, quoi. Donc, Voilà. Et puis à un moment, vous vous retrouvez aussi PDG, et là, bah, vous avez plus de patron, quoi. Et donc, il faut chercher. Et moi, j'aime bien continuer à apprendre. Et donc, il faut chercher d'autres personnes, d'autres façons d'apprendre. Moi, j'ai été coachée à deux reprises. Une fois, ça a été un échec total parce que c'était pas la bonne personne. Et puis, j'étais pas prête. Et une fois, plus récemment, ça m'a beaucoup apporté, mais c'était plus sur la partie même un peu perso, voilà. Et donc donc je crois qu'il faut. Enfin, moi, j'ai besoin d'apprendre. Moi, j'ai besoin d'avoir le sentiment de continuer à apprendre. Et j'ai eu la chance aussi, je crois, sur l'aspect management, d'être dans des grandes entreprises et notamment la Poste. Et moi, j'ai beaucoup appris du management, Jean-Paul Bailly, sans suivi soutien. C'est des choses quand même. Alors après, on se fait sa propre opinion. Mais c'est quand même des structures de management qui, moi, m'ont beaucoup formé.
Mais c'est fou comme le monde de l'entreprise, je trouve, en fait, est une école de la vie, et une école du travail, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous posais cette question, parce que je me doutais que ça serait via vos managers. Je suis aussi contente de voir, enfin, c'est pas que je suis contente de voir que vous êtes coachée, mais je trouve ça aussi assez libérateur de voir que même quelqu'un comme vous, à un moment donné, a envie de progresser sur des sujets et du coup accepte de se faire coacher. Parce que parfois, je pense qu'il peut y avoir aussi un petit côté, oh là là, j'ai pas besoin, etc. Une petite côté un peu, pas forcément acceptable encore aujourd'hui du coaching, alors même que, comme vous le disiez, c'est juste un moyen de progresser. Donc, je vous remercie d'avoir partagé ça.
Après, je crois que tout apprend. Moi, j'apprends beaucoup de mes enfants. Quand vous rentrez le soir, ça vous apprend aussi beaucoup. Ça vous apprend la déconnexion, ça vous apprend aussi les choses nouvelles. Mais je crois qu'il faut être dans cette quête d'apprendre et d'être sans arrêt meilleur. Et puis le monde du travail évolue beaucoup. Enfin, moi, j'ai parfois l'impression d'être déjà vieille. D'ailleurs, c'est vrai, je le suis. Mais entre le moment où j'ai débuté et maintenant, moi, quand je fais par exemple des entretiens de recrutement maintenant de jeunes, j'ai l'impression que c'est moi qui passe un entretien de recrutement. Et je me dis, mais à leur âge, je n'aurais jamais osé poser ces questions-là. Donc, je crois
quel type de questions ?
Et c'est pour ça. Ben, ils osent poser des questions sur alors le télétravail et est-ce que je pourrais le rythme de travail, alors que moi à leur âge j'étais prête à travailler tout le temps. Voilà, et je pense qu'on a un rapport au travail, les jeunes générations, qui sont très différentes sur les à côté du travail. Ils rêvent tous de bosser dans une start-up, et donc ça impose aussi de se remettre en question. Et je pense qu'il n'y aurait rien de pire que des dirigeants qui ne bougent plus.
Hyper intéressant. On arrive à un moment que j'aime beaucoup, qui est le crible de mon podcast, où je pose toujours les mêmes questions, mais qui sont plutôt intéressantes, vous allez voir. D'abord, est-ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle ou professionnelle un grand échec dont vous pourriez me parler, et surtout, en fait, les enseignements que vous en avez tirés?
Alors, je vais en parler de façon sibylline. Mon plus grand échec, c'est que je pense qu'il y avait un job que j'aurais adoré avoir et que je ne l'ai pas eu. C'est classique, finalement. Mais finalement, je m'en suis assez bien remis, parce que je me dis, c'était peut-être pas le job de ma vie. Voilà. Mais ça, quand même, voilà, ça m'a...
Parce que vous avez travaillé très fort pour essayer de l'avoir, et ça n'a pas marché.
Voilà. Bon,
et,
c'est tout.
Et l'enseignement, c'était que finalement, il faut pas s'accrocher sur des choses qui n'arrivent pas, ou...
L'enseignement, c'est que j'étais peut-être pas faite pour ce job-là, et que tant pis, j'ai fait autre chose, et c'était très bien aussi.
Donc, ne pas rester focalisé.
Voilà, je pense qu'il faut pas rester focalisé, et il faut pas avoir de regrets. Je pense que les regrets, et ne pas être jalouse.
Ah, ça, c'est très important.
Très important.
Alors, ça tombe bien, parce que ma deuxième question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Sans que ça soit forcément un regret, mais quelque chose où vous sentez que, finalement, maintenant, avec le recul, oui, vous auriez pu faire les choses d'une autre manière. Et pareil, ça peut être tout autant professionnel que personnel.
Je pense que j'ai parfois, je n'ai pas été suffisamment loin dans la transformation. Je pense qu'on croit toujours qu'on va pas assez vite, pas assez fort. Voilà. Moi, je pense que il faut. Et d'ailleurs, plus ça va, je pense que plus j'ose faire des choses de transformation.
D'aller jusqu'au bout des choses.
Voilà.
Une maxime, des mots de sagesse, une citation qui vous tient à cœur et que vous pourriez partager avec nous.
Alors, je voudrais citer une citation que disait toujours mon père. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression.
Ah.
Voilà. Et je la cite souvent à mes enfants et souvent à plein de gens. Et je trouve que c'est très important, parce qu'en fait, c'est tellement vrai. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous n'avez pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et cette bonne première impression, elle est quand même hyper importante.
C'est vrai. Et c'est vrai que ça met du temps à changer.
Et on s'en aperçoit quand on recrute, quand on rencontre quelqu'un. On dit toujours, il ne faut pas rester sur sa première impression. C'est très, très dur de ne pas rester sur sa première impression parce qu'on a tous ces biens inconscients, moi, qui me fascinent. Ou voilà, et ça vous reste pour toujours. Donc, voilà ma maxime.
Bah écoutez, j'espère que je vous ai fait
complètement transformant, mais voilà, au moins tout le monde s'en rappellera.
Ah non, mais c'est très concret et surtout, j'espère que je vous ai fait une bonne impression du
tout
coup.
Tout à fait.
Parce que j'ai peur là. Autre question, alors je préviens, elle n'est pas facile, mais elle est très intéressante. Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez qui est globalement controversée? Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être sur le management au féminin par exemple, vous constatez que l'époque actuelle partage une idée reçue et vous êtes plutôt pas d'accord avec ça.
Alors maintenant tout le monde est pour, mais moi j'ai toujours été pour les quotas de femmes.
D'accord.
Voilà, parce que je crois que c'est un mal nécessaire. Sinon on n'y arrivera jamais. Mmh. Et je regardais encore la semaine dernière là, il y a un documentaire sur les 100 premiers jours des présidents depuis De Gaulle et je me suis dit mais quand même les femmes elles arrivent très 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 tard dans l'histoire. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc quotas de femmes à fond pour les quotas de femmes.
D'accord. Et vous en avez mis en place dans les entreprises dans lesquelles
j'essaie
vous travaillez?
J'essaie à chaque fois. Voilà.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis?
Je crois pas, en fait.
J'ai le droit, non? Bah, bien sûr. Vous avez le droit, vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est intéressant, écoutez. Et dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué? Ça peut être un livre, ça peut être un objet culturel, un film, ce que vous voulez, mais qui vous a particulièrement marqué et je dirais qui a peut-être presque forgé la personne que vous êtes aujourd'hui.
Alors, moi, j'adore la montagne. Et donc, moi, je suis une fan absolue des Conquérants de l'inutile de Lionel Terray.
Alors là, jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, Lionel Terray, grand alpiniste, qui a ouvert plusieurs faces nord, qui a fait les expéditions de l'Annapurna en 1950, et qui était un type assez incroyable, qui avait été agriculteur, et qui a écrit ce livre, Les Conquérants de l'inutile, qui fait référence dans la littérature de montagne. Et d'abord, le titre est d'une beauté absolue parce qu'il a tout compris à la montagne et il raconte tout son parcours. Et c'est formidablement écrit. Et pour tous les gens qui aiment un peu la montagne, c'est voilà. Enfin, moi, ça m'a fait rêver. Je crois que j'aime bien aussi un peu l'exploration, la beauté. Et j'adore la montagne. Voilà. Donc, Les Conquérants de l'inutile. Et plus récemment, moi, j'aime beaucoup la BD. Il faut absolument lire Le Monde sans fin. Mm. Voilà. De Jean-Marc Jancovici et Christophe Blanc. Qui est vraiment une BD incroyable sur la transformation qu'on va tous devoir faire dans notre société pour essayer de s'en sortir.
Pour revenir sur la montagne, je ne sais pas si vous savez, mais il se trouve que moi, j'habite, même si là on est à Paris, j'habite dans la montagne, au fin fond de la montagne, dans un endroit complètement perdu, et j'adore, et je suis aussi quelqu'un qui adore la montagne, même si je ne suis pas du tout alpiniste. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombée amoureuse de la montagne? Parce que vous venez de Reims, c'est un endroit quand même pas très montagneux.
Alors, c'est un peu une passion familiale, parce qu'on était tous dingues de ski dans la famille. Et moi, en fait, j'adore Chamonix. Voilà, j'adore Chamonix.
Ouais, la haute montagne.
La haute montagne. D'abord, la beauté de la montagne, moi, m'émeut. La verticalité. Et puis, le côté un peu dépassement de soi. Moi, une course en montagne... ça n'a rien à voir avec une balade. Quand vous arrivez, que vous avez un but et que vous y arrivez, c'est quand même quelque chose de très agréable et quand on ne l'a pas fait, on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc oui, moi j'aime beaucoup la montagne, la glisse aussi. Voilà. Et c'est quelque chose qui me le beau d'une façon générale, je trouve. Mais là, ça aussi, c'est peut-être l'avancée dans l'âge. Le beau, alors c'est une belle montagne, mais ça peut être une belle œuvre ou quelque chose qu'on a bien fait. Je trouve que c'est quelque chose de très satisfaisant et un moteur.
Eh bien, merci pour ces mots, c'était passionnant. Pour terminer, est-ce que vous pourriez me dire, Marie, où est-ce qu'on peut vous trouver si on vous cherche? Si on a écouté ce podcast, c'est ce qu'on dit quand même. J'aimerais bien envoyer un petit mot à Marie pour la féliciter ou pour lui demander un conseil, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible de vous retrouver quelque part?
Ah oui, via LinkedIn, c'est très facile.
Donc LinkedIn.
Et je réponds, voilà. Et des Marie Cheval, il n'y en a pas tant que ça, donc vous allez me trouver.
Formidable, merci mille fois.
Merci Pauline.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.